Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Il est midi à Kinshasa, 13h à Butembo, au Nord Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. Conflit entre les Teke et les Yaka Kwamouth dans la province du Mai Ndombé. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, rejette les allégations selon lesquelles le gouvernement est resté silencieux face à cette situation. Effondrement d'un immeuble de 6 niveaux hier soir à Bukavu, au sud Kivu, pourtant en état de finissage. Plusieurs sources parlent de 5 à 6 personnes sorties avec blessures, alors que 5 autres se trouveraient encore sous le décombre jusqu'à ce dimanche matin. Le non-respect des normes architecturales reste la grande cause de ce genre d'incident. L'invité de ce journal est Maître Pascal Mupenda, directeur de programme de PPI, partenariat pour la protection intégrée. Il s'exprime sur la réforme de la loi de la presse de 1996, un impératif pour la consolidation de l'état de droit en RDC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Conflit entre les Teke et les Yaka à Kwamouth dans la province du Mai Ndombé. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, s'exprime en exclusivité sur Radio Okapi à ce sujet. Daniel Asselo rejette les allégations selon lesquelles le gouvernement central est resté silencieux face à cette situation. Il annonce qu'il y a 2 semaines, il a pris toutes les précautions afin que l'ensemble du gouvernement soit mis au courant de ce qui se passe dans le territoire de Kwamouth. Il indique que lors du dernier conseil de ministres, il est revenu sur cette question et des instructions ont été données par le chef de l'État pour qu'une délégation gouvernementale se rende dès le début de la semaine dans cette province pour mettre fin à cette situation. On écoute le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a été joint par Guy.
Le gouvernement de la République a ses subdivisions ou ses branches. Il y a le gouvernement provincial qui est là, il y a tous les services de l'État qui sont là. Il n'est pas dit que lorsque un problème se pose quelque part, il faut que ce soit nécessairement le président de la République, le premier ministre qui agisse. Nous avons nos services, nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons les services de renseignement et de sécurité, mais qui vous fait croire qu'il y a du silence ? Au niveau des institutions de la province et au niveau des autres services de l'État, le travail est en train de se faire pour que tout ce qui serait à la base de ces affrontements-là cesse, parce qu'il s'agit d'un conflit tribalo-ethnique. Le plus important pour le gouvernement de la République, c'est de savoir comment rapprocher ses filles et fils qui seraient en train de s'entretuer là-bas. Ce n'est pas intéressant.
Et puis les actes barbares que commettent les bandits urbains, appelés communément Kuluna, depuis des années dans les quartiers de Kinshasa et dans certaines villes de la RDC inquiètent. Et une certaine opinion pense que la stratégie mise en place par le gouvernement pour gérer ce phénomène ne pousse pas ces jeunes à renoncer à leur comportement violent. C'est plutôt le contraire qui se produit. C'est comme si l'approche Kanyama Kasese consacrait l'impunité, affirment certains Congolais. À la question de savoir si à cette approche, il faut ajouter d'autres stratégies, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avoue que Kanyama Kasese ne constitue pas la panacée. Mais il pense que ce qui importe, c'est de chercher à savoir quelle est la solution adéquate pour mettre fin à ce phénomène. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, répond aux questions de Guy Maté.
Dans tous les pays, lorsque ce genre de problème se pose, comme je le disais dans notre cas d'ailleurs, on réfléchit ensemble au niveau de la nation pour trouver des pistes de solutions. Personne n'a dit que l'aspect Kanyama Kasese réglerait totalement cette situation-là. C'est un aspect que les services de renseignement ont pu concevoir et je pense que cet aspect-là n'a pas encore démontré beaucoup de faiblesses. Mais j'insiste pour dire que nous, en tant que gouvernement, il faut trouver des solutions pour ces jeunes gens qui sont très, très nombreux. Il faut les faire, de chercher à savoir s'il faut les tuer. Oui, ceux qui me connaissent savent que je prêche effectivement pour que l'impunité ne soit pas mode de gestion dans ce pays. Mais il y a un phénomène, et pour un phénomène, je ne pense pas que l'argument à privilégier, c'est de prendre des gens et de les mettre dans des cachots.
Et puis dans les territoires des Lubero, plusieurs factions du groupe milicien et Union des Patriotes pour la libération du Congo, IPLC, ont érigé des barrières illégales et instauré des taxes, notamment dans la chefferie des Bassoa et les secteurs des Bapéré. Cette situation non seulement impacte le social de la population, mais également constitue un manque à gagner pour les trésors publics, indiquent les acteurs de la société civile dans la région. Les explications avec Alain Irung.
Nos sources dans la région renseignent que ces Mai Mai UPLC ont érigé une barrière à Biamboué dans le groupement Manzia, à la limite entre la chefferie de Bachoua et le secteur de Bapéré. Ici, ils font payer au moins 1000 francs congolais à tous les usagers de cet axe routier. Une autre barrière est érigée à Liboyo, où ils demandent au moins 500 francs aux passants. À Kambao et Biloulou sont érigés des camps de ces miliciens Mai Mai qui organisent des travaux communautaires communément appelés Salongo chaque jeudi. Les habitants qui ne s'y exécutent pas sont sommés de payer des amendes forfaitaires qui vont jusqu'à une chèvre ou plus. À Vuinga, dans la chefferie de Bachoua, ils se sont carrément substitués au service de l'État en instaurant des taxes illégales aux habitants et opérateurs économiques, affirment des acteurs de la société civile dans la région. L'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, qui confirme ces faits, dit d'abord regretter le comportement de ces miliciens dont les leaders ont participé récemment aux consultations de Nairobi. Toutefois, il affirme avoir déjà remonté la question au niveau de sa hiérarchie en vue d'envisager des dispositions utiles. L'effectivité du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation est l'une des solutions à ce problème, reconnaît le colonel Alain Kiwewa.
Nord Kivu a encore plusieurs projets de développement mis en œuvre par l'Institut congolais de la conservation de la nature, ICCN. Notamment la société Virunga Energy en faveur des populations se retrouve paralysée à la suite des affrontements entre les FARDC et les rebelles du mouvement M23. C'est notamment des projets environnementaux, énergétiques, touristiques et agricoles. Ces affrontements ont un impact considérable sur le parc national de Virunga, mais aussi sur les tissus socio-économiques de la région. L'ICCN demande la sécurisation de ses installations et de son personnel afin de lui permettre de poursuivre sa mission. Le point avec Gumaté.
En plus de sa mission de conservation de l'environnement dans les parcs de Virunga, l'ICCN est un acteur majeur des développements locaux. Emmanuel Bouende, son chargé de communication, cite entre autres le tourisme et la production et distribution de l'énergie électrique. Avec ses centrales de Matebe, Mutwanga et Luviro qui sont actuellement opérationnelles, ainsi que la centrale de Rwanguba qui est en construction, le parc national de Virunga est également impliqué dans l'agriculture durable et la pêche dans l'accompagnement des entrepreneurs. Emmanuel Bouende ajoute que les affrontements depuis novembre 2021 dans une grande partie du parc et notamment dans les secteurs Mineco rendent difficile la continuité de ces projets, notamment la destruction de ces installations enregistrées récemment à Rwanguba. Vous avez suivi, nous avons publié un communiqué faisant état des deux bombes qui sont tombées sur le site du chantier de la centrale de Rwanguba, ce qui nous a obligés à évacuer le personnel pour la énième fois. L'ICCN n'est pas parti au conflit et demande donc la sécurisation de ces installations ainsi que celle de son personnel afin de poursuivre sa mission. Emmanuel Bouende parle des manques à gagner réels, les ralentissements des activités économiques sans oublier l'impact environnemental causé par ces affrontements.
Au Nord Kivu, encore une fois, le gouverneur de province, le lieutenant-général Constant Dima, est à Rutshuru depuis ce dimanche matin. C'est pour calmer la population par rapport à la manifestation prévue demain lundi en vue de dénoncer la guerre du M23 et l'occupation de ses entités par ces rebelles. À la tête d'une délégation, le gouverneur a échangé dans la matinée avec plusieurs couches de la population, notamment la société civile, les déplacés et autres leaders d'opinion locaux. Après avoir écouté leurs revendications, le lieutenant-général Constant Dima a appelé la population de Rutshuru au calme et les a rassurés des efforts consentis pour rétablir la sécurité dans la région. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Effondrement d'un immeuble de 6 niveaux hier soir à Bukavu, au sud Kivu, pourtant en état de finissage. Plusieurs sources parlent de 5 à 6 personnes sorties avec blessures alors que 5 autres se trouveraient encore sous des décombres jusqu'à ce dimanche matin. Le non-respect des normes architecturales reste la grande cause de ce genre d'incident. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Les témoins affirment avoir été surpris par un gros bruit au croisement des avenues Fizi et de la résidence en commune du Banda alors qu'il était presque 21h. Un immeuble de 5 étages en état de finissage s'est effondré du 5e au 1er niveau. Plusieurs sources parlent de 5 à 6 personnes qui en sont sorties avec blessures alors que 5 autres ensevelis se trouveraient encore dans les décombres jusque ce dimanche matin. À cela s'ajoutent les passants qui ont été affectés et vite évacués à l'hôpital militaire pour des soins. Le gouverneur de province, le général de la police et le maire de Bukavu sont vite arrivés sur les lieux la même nuit pour s'enquérir de la situation. Ceci constitue un énième cas d'effondrement de maisons dans la ville de Bukavu pour cette année en cours. Le non-respect des normes architecturales reste la grande cause de ce genre d'incident. La ville de Bukavu est actuellement un chantier permanent. Des maisons en étage sont monnaie courante. Elles poussent dans tous les quartiers avec ou sans autorisation de bâtir. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio.
Au Kasaï oriental, la régie des Zombujimaï a réceptionné jeudi dernier près de 20 000 litres de carburant, dont de la présidence de la République. D'après les DOT de cette entreprise de distribution d'eau potable, ce carburant sert à faire tourner les groupes électrogènes afin de desservir la population en eau potable pendant cette période de manque d'énergie électrique. Jean-Claude Mboudi Lelo souhaite que l'autorité provinciale accorde à son entreprise de hausser les prix de bassins et de bidons de 20 litres d'eau pour leur permettre d'acheter facilement le carburant à la pompe. Jean-Claude Mboudi Lelo, directeur provincial de la régie des Zombujimaï, s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de cette province.
Maintenant, là, nous avons reçu 20 000 litres, dont présidentiel, que nous gérons. Maintenant, là, pour les carburants, on peut être à l'aise pendant près de 14 jours. Parce que chez nous, les consommations sont fortes. C'est 284 litres par heure. Vous voyez comment nous fonctionnons. Si nous faisons 5 heures, nous sommes déjà à 1400 litres. Et donc, ce n'est pas facile pour nous. À la régie des eaux, jusqu'à ce jour, les bidons, c'est 75. Que l'autorité autorise à la réseau de pousser, d'avancer un peu pour nous permettre à la réseau d'acheter les carburants. Parce qu'à la pompe, c'est cash.
70 dépendants et épouses des policiers ont reçu leur brevet en coupe et couture après une formation de 6 mois hier ici à Kinshasa. Cette formation, répartie en 2 modules, était organisée par le Centre social et de développement du camp Lufungula, une initiative de l'Association nationale des femmes des policiers de la RDC. Paul Matendo pour des détails.
Selon Mme Cécile Amouli, présidente de cette association, cette formation a eu pour objectif de doter les dépendants et épouses des policiers des capacités de s'y prendre en charge. Mais elle affirme qu'elle fait face à plusieurs contraintes.
Pour les apprenantes, elles viennent nombreuses par après. Il y a des contraintes sociales. Elle n'a pas à manger. Elle a peut-être d'autres occupations. La deuxième, c'est des moyens. La session qui vient de se terminer, c'est la session en coupe-couture. Nous avons des machines qu'on a utilisées. Ce sont des apprenantes. Elles n'ont pas la capacité de bien gérer les machines.
Invitée à cette manifestation, Antoinette Kipoulou, ministre de formation professionnelle et métier, rassure son accompagnement à cette structure.
Je ne peux qu'encourager les mamans. Voilà pourquoi je suis venue.
L'une des lauréates dit sa satisfaction et promet d'exercer son métier avec bravoure.
Je peux ouvrir même quelque part, je m'assois avec 2 ou 3 copines, on travaille ensemble parce que je suis capable de défendre ma cause.
Cette formation concernait au départ 90 candidats, mais 70 seulement ont satisfait selon les organisateurs.
Le parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, sollicite des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat leur concours d'obtenir la nomination de nos premiers ministres membres de l'UDPS. C'est ce que l'on peut retenir, en tout cas, de la déclaration de la Convention démocratique du parti, l'un des organes dirigés par Victor Wakwenda. Dans une déclaration faite à la presse hier samedi à Kinshasa, son directeur de cabinet, Paul Koutoundoua, affirme que le premier ministre issu de l'UDPS faciliterait la coordination des projets du chef de l'État. Paul Koutoundoua l'a dit à Paul Matendo.
La direction du cabinet du président de la CDP sollicite, dans le cadre de notre union sacrée, la nation, aux honorables présidents Christophe Mbosso et Modeste Baati, de faciliter la nomination dans le tout prochain gouvernement un premier ministre issu de l'UDPS pour une meilleure coordination des projets inscrits au programme du chef de l'État. Salue la déclaration des présidents des États de la SADC pour leur courage héroïque, rejetant en bloc la loi du Congrès américain teintée du néocolonialisme. Appuie les caractères non alignés des États de la SADC à cette crise russo-américaine. Exige à Paul Kagame, président du groupe terroriste M23, de retirer sans délai ses troupes du sol congolais et particulièrement de Bounagana.
Actualité internationale.
Au Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi est en détention provisoire désormais illimitée. Une détention qui pourtant aurait dû durer au maximum 8 mois. Mais ce dimanche, l'ancien président des Comores entame les débuts de sa 5e année en résidence surveillée. En 1918, l'ex-chef de l'État comorien a été inculpé de corruption et de complicité de faux dans une affaire de fraude au passeport. Le Sénégal et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération militaire. Le chef d'état-major de l'armée sénégalaise, le général Tchèk Ouad, a effectué une visite de 24 heures en Guinée-Bissau, une première depuis le déploiement des forces de son pays dans le cadre de la mission d'appui pour la stabilisation de la Guinée-Bissau. Cette visite s'inscrit aussi autour du renforcement de la coopération militaire entre Dakar et Bissau.
L'invité.
L'invité de ce journal est Maître Pascal Mupenda, directeur des programmes de PPI, Partenariat pour la protection intégrée. Il s'exprime sur la réforme de la loi de la presse de 1996, un impératif pour la consolidation de l'état de droit en RDC. Maître Pascal Mupenda répond aux questions d'Emmanuel et la Mejiwa Kabedi.
Maître Pascal Mupenda, bonjour.
Bonjour.
PPI aujourd'hui qui aborde la question relative à l'exercice de la presse. Pourquoi aborder cette question en ce moment?
C'est parce que nous constatons qu'il y a la loi de 1996 portant exercice de la liberté de la presse qui est vétuste, qui ne rentre plus, n'est-ce pas, dans l'actualité par rapport à la profession journalistique. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il est impérieux de réfléchir sur la réforme. Et comme il y a déjà un processus enclenché au niveau national, voilà pourquoi aussi au niveau de la province, on a pensé qu'il était impérieux que les journalistes, les magistrats, les juges, les acteurs de la société civile, les avocats, qu'on puisse réfléchir ensemble sur les innovations qui peuvent rendre réellement la profession journalistique indépendante, les médias indépendants lors de cette réforme que nous souhaitons, n'est-ce pas, voir aboutir en tant que nouvelle loi pouvant réglementer la presse en RDC.
Qu'est-ce que vous reprochez à l'ancienne loi? Comment elle a vieilli?
Cette loi est vieille parce que aujourd'hui il y a des réalité que cette loi ne prend pas en compte, alors qu'aujourd'hui le journalisme est dicté par, n'est-ce pas, les intiques, et on devrait déjà y tenir compte à travers la loi qui gérerait la presse. En plus, nous constatons que cette loi ancienne, elle renvoie au code pénal, alors que si aujourd'hui on peut dire qu'on va appliquer les prescrits du code pénal à la profession journalistique, c'est tous les médias qu'on peut fermer dans ces pays, c'est tous les journalistes qu'on peut envoyer en prison, parce que finalement, il faut le dire, lorsque on constate ce qu'on peut appeler diffamation, les imputations dommageables et tout ça, en tout cas, ne peuvent pas laisser les journalistes libres ou bien les médias libres. Voilà pourquoi nous pensons que cette loi ne mérite plus et il est impérieux qu'il y ait une nouvelle loi qui vienne réglementer la profession journalistique. Cette nouvelle loi, cette réforme doit tenir compte de la dépénalisation des délits de presse, les nouveaux mécanismes par exemple de la régulation et l'autorégulation pour qu'il y ait par exemple un tribunal des pairs qui puisse juger les journalistes en cas de manquement et non l'envoyer en prison, parce que ce sera l'information aussi qu'on emprisonne à ce moment-là.
Est-ce que le tribunal des pairs que vous proposez aujourd'hui pour prendre la relève de la justice envers les journalistes, n'est-ce pas que ça serait peut-être une façon de considérer la liberté de la presse comme un libertinage?
C'est pas non plus ça le cas, parce que pour nous, nous pensons que le tribunal des pairs pourrait, n'est-ce pas, avoir comme soubassement déjà cette réglementation d'abord à l'interne pour quelqu'un qui a commis les manquements, mais ce n'est pas que le fait qu'il y ait déjà certains dépairs ou bien qu'il y a des pénalisations que finalement on fait ce qu'on appelle la décriminalisation ou bien on consacre l'impunité à l'égard du journaliste ou même des médias. Non, c'est juste une façon quand même de lutter contre cette arrestation là ou bien cet emprisonnement là, parce qu'on l'avons dit, emprisonner un journaliste qui a diffusé les faits, c'est aussi emprisonner l'information même. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important qu'on puisse réfléchir tout simplement comment amener l'UNPC par exemple, les CESAC et tous les autres mécanismes d'autorégulation, n'est-ce pas, à amener les journalistes à changer, peut-être demander pardon publiquement pour des faits qu'il a publiés, peut-être lui soumettre carrément s'il est chié au paiement de dommages et intérêts, si les faits s'avéraient vrais, mais pas l'envoyer en prison. Voilà que donc même la dépénalisation ou la réforme tant souhaitée ne signifie pas qu'on vient consacrer l'impunité ou bien qu'on vient laisser les journalistes être totalement libres, donc un libertinage comme cela est dit, mais plutôt juste une façon de l'amener à la conscientisation et éviter de l'arrêter ou fermer les médias parce qu'il a diffusé telle ou telle information. Donc les sanctions seront toujours là, mais à la différence c'est qu'elles seront suivies beaucoup plus par les semblables même du journaliste. Et je pense qu'il y a un dicton qui dit clairement que le fait d'envoyer un journaliste en prison ou quelqu'un en prison n'arrange pas mieux la peine que plutôt toucher son patrimoine ou plutôt le faire corriger par d'autres mécanismes que la prison. Et nous, nous plaidons pour ça.
Maître Pascal Mupenda, merci.
Et c'était l'invité de ce journal, Maître Pascal Mupenda, directeur des programmes des PPI, Partenariat pour la protection intégrée. Il répondait à partir de Bukavu, Sud Kivu, aux questions d'Emmanuel et la Mejiwa Kabedi. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.